Chapitre 22. Rosa Bonheur. L'animal est ton égal. Le docteur Van Horst, comme convenu, quitta cette fois-ci sa blouse de pédiatre pour empoigner ses accessoires d'hypnothérapeute. Puisque rien, parmi les innombrables tests effectués, n'avait pu expliquer la perte de vue passagère de Mona, il chercherait à l'immerger dans un état second afin qu'elle plonge aux sources de ce mal mystérieux par l'esprit. Mona allait se prêter à l'exercice en composant avec des secrets aux limites du mensonge. Alors que sa mère et son médecin pensaient qu'elle acceptait l'expérience grâce au travail qu'elle était supposée conduire auprès d'un psychologue chaque mercredi, c'était en réalité des séances à répétition devant des œuvres d'art qui lui avaient ouvert cette voie. Van Horst fit asseoir l'enfant dans un fauteuil en cuir très mou, avec de gros accoudoirs, et lui demanda de renverser la tête en arrière. Il passa sa main à environ 10 centimètres de ses épaules et les enveloppa d'une espèce de fluide invisible, en lui répétant d'une voix très calme de se relaxer et de penser à sa musique préférée, puis d'en détacher chaque note, de les étirer dans sa tête, une par une, comme si les sons se distendaient à l'infini. Il l'invita ensuite à prendre conscience des extrémités de ses membres pendant plusieurs minutes, puis lui posa 3 doigts sur le front en lui répétant que ses paupières étaient lourdes et collées. Les cils de la petite fille se mirent à papillonner. Van Horst avait fait basculer Mona dans un état modifié de conscience, ouaté et serein. Il ne souhaitait pas, dès cette première séance, brusquer sa mémoire. Plutôt que de l'inciter à revivre les douloureux moments de la crise et d'enfouiller les périphéries, il lui suggéra de penser à des émotions très positives. La méthode du médecin consistait à habituer le cerveau à convoquer des figures rassurantes si d'aventure, au gré d'une prochaine séance, des visions trop négatives devaient prendre le dessus. Il appelait cela les idées refuges. Mona se sentait prise d'un engourdissement délicieux. Une cascade de gris et de blanc accrochait son attention, comme si défilait dans un rêve incertain la bobine vierge d'un film. La voix du docteur, quoique parfaitement audible, lui paraissait lointaine. À mesure qu'en elle infusait l'idée de songer à des personnes aimées, grandissaient les sensations de sa mère et de son père. Et puis, immense, dans une forme vague et étanche à toute anecdote concrète, apparut l'impression de son grand-père. Mona se laissa envelopper par cette aura. Elle flottait dans un non-lieu, hors des mots, traversée seulement par des perceptions abstraites. Alors, sans crier gare, apparut quelque chose d'absolument gigantesque, quelque chose au-delà de l'espace et du temps. Celles et ceux que tu aimes, continuait de suggérer la voix. Et c'était comme une incantation. La psyché de Mona s'ébranla. Elle sentit pousser en elle une incommensurable impression de douceur et de chagrin mêlé. 2 doigts claquèrent, elle rouvrit les yeux. Van Horst lui souriait. Elle se sentit étrangement bien jusqu'à l'heure du coucher, mais ne savait ni quoi penser ni quoi dire à ses parents de ce qu'elle avait vécu. Quand sa mère vint l'aborder, elle se contenta d'une question. « Maman, est-ce qu'un jour tu voudras bien me parler de mamie ?» Quand on pénétrait dans la galerie centrale du musée d'Orsay, trônait au pied des escaliers, sur un socle massif, un énorme lion en bronze qui impressionnait beaucoup Mona. Il est signé Antoine-Louis Barry, lui glissa son grand-père, avant d'ajouter que ce sculpteur, grand habitué de la ménagerie du Jardin des Plantes, relança l'art animalier en Italie dans la première partie du 19e siècle. Il sentit Mona trépigner d'excitation. Le monde des bêtes, en particulier quand elles étaient rondes et câlines, lui faisait l'effet d'un Éden effervescent. La leçon du jour portait justement sur ce sujet, mais pour l'aborder, Henri avait évité le spectacle trop héroïque des grands prédateurs aussi bien que celui trop craquant des chiens et des chats de compagnie. Avec Mona, ils iraient voir, plus trivialement, des bovins. L'œuvre, d'envergure panoramique, déployait sur toute sa largeur des sillons labourés par l'action des socs. Le ciel, dont les dégradés de bleu se fondaient à la perfection pour diffuser une subtile lumière froide et matinale, occupait à peu près la moitié de la surface de la toile. Deux attelages se suivaient. L'un et l'autre étaient semblablement composés. Six bœufs traînaient leur charrue, elle-même dirigée par le laboureur, tandis qu'un bouvier veillait sur les animaux à l'aide d'une gaule armée d'un aiguillon qui servait à les piquer. Vallonné à gauche de la composition par un coteau boisé que ponctuaient deux toits émergeant des arbres, la campagne offrait un ample décor verdi et dégagé. La scène était vue légèrement en oblique, de sorte que les veines de terre aérées, au lieu d'être parallèles, se rejoignaient en un point largement hors cadre, à gauche de la composition, juste en dessous de la ligne d'horizon. Ce procédé générait un angle de perspective qui rendait les protagonistes de plus en plus grands et proches à mesure qu'ils avançaient vers la droite, ce qui donnait l'impression que le sol retourné formait une très légère pente ascendante, comme un faux plat dans une plaine. Les attelages étaient répartis en deux rangs parallèles de trois spécimens, quasiment tous d'un pelage blanc crème. L'attelage au loin formait une masse un peu écrasée. Celui qui le devançait était en revanche très observable. En particulier le profil des trois bovins qui marchaient, l'écume aux babines, sur le rang de droite. L'animal en tête était d'un beige plus foncé. Celui en queue était d'un roux qui faisait exception parmi les 12 bêtes du tableau. Et entre les deux, marchait un bovidé qui semblait constituer sinon le sujet, du moins le cœur de l'œuvre. Il pivotait légèrement la tête vers le spectateur, et son œil semblait lui lancer un regard pathétique. Sans doute venait-il d'être stimulé par le dard du jeune bouvier en sabots qui l'accompagnait. Durant les 25 minutes qu'elle passa à examiner chaque détail, Mona plongea notamment dans les nuances des tons clairs qui faisaient vibrer la robe des animaux. Mais elle examinait aussi les bandes de labour, dont la terre, bordée par des champs herbeux, était d'un marron brillant. « Ah !» se culpabilisait Mona. « Dadé me demande de regarder les tableaux avec intelligence, et voilà que je pense à la rivière de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. » Elle en avait la salive à la bouche. Ce labourage nivernais était peut-être une scène de campagne, comme un enterrement à Ornans de Courbet, mais l'atmosphère en différait du tout au tout, par le sujet, mais surtout par le traitement pictural. Alors que Courbet cherchait l'intensité mate, opaque de la boue et de la cendre, la toile de Rosa Bonheur se voulait presque appétissante par le jeu des glacis, et les sillons qui se grumelaient en grosses mottes avait en effet des airs de cacao. « Eh bien, Mona !» finit par embrayer Henri. « Nous voilà à nouveau devant une grande artiste. »
« J'ai lu son nom, et je le trouve splendide. Rosa Bonheur. »
Au XIXe siècle ont lieu énormément de mutations, de changements de perception dans tous les domaines. Et Rosa Bonheur a été une figure de ces bouleversements. Elle a vécu une ascension sociale exemplaire. Née en 1822, dans un milieu modeste, elle était destinée à devenir couturière. Mais à ses 13 ans, peu de temps après la mort de sa mère, que la famille inhuma dans la fosse commune, faute d'argent, elle s'orienta vers la peinture. Son père, qui était lui-même artiste, la prit en formation. Elle mena sa carrière et finit par être reconnue dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Pour tracer sa voie, elle dut faire preuve d'une force de caractère exceptionnelle et braver sans courber l'échine tous les préjugés des hommes.
Des hommes, tu veux dire des garçons ou des humains?
Les deux. Quoique de sexe féminin, elle portait les cheveux courts, fumait le cigare et s'habillait en pantalon, ce qui nécessitait une permission de travestissement. Elle ne se maria pas et vécut avec d'autres femmes. C'était quelqu'un qui se révoltait contre les hiérarchies qu'on opérait entre les êtres, entre les sexes, entre les milieux sociaux, entre les géographies urbaines ou rurales. Mais ce tableau nous montre bien plus encore. Henri parlait d'une voix douce et profonde. Mona, au lieu de demeurer à côté de lui, se glissa devant le tableau. Elle tourna le dos à la toile et se hissa face à son grand-père, de sorte que son visage se superposa sur le vide entre les deux attelages. Elle eut alors un geste adorable. En souriant et en haussant les sourcils, elle leva un doigt comme si elle réclamait la parole, l'air de dire « Est-ce que je pourrais placer un mot ?»« Là, Daddy, c'est encore une fois un grand tableau pour quelque chose qui se passe à la campagne, pour des paysans. Et en plus, avec leurs bêtes, ils occupent tout l'espace, de long en large. Ça, c'est parce que l'artiste veut montrer la beauté de la campagne et tout ce qu'on va y trouver. Alors, par exemple, les arbres, comme ceux sur la colline, les champs, les gens qui y travaillent, et puis aussi... » Elle hésita. « Eh bien, Mona, quoi d'autre ?»« Et aussi les bêtes, on dirait. » « Vraiment? Tu avancerais cela alors qu'elles ont la bave aux lèvres ?»« Bah oui, Dadé. D'un côté, c'est vrai qu'elles bavent. Et puis, ce sont des bœufs. Et les bœufs, eh bien, c'est toujours un peu difficile de dire qu'ils sont franchement beaux. Mais eux, ils le sont, je trouve. Ben, je me trompe peut-être. »
« Pas du tout. Et Rosa Bonheur pensait comme toi.
À ses yeux, les animaux étaient d'une beauté digne de celle des êtres humains. Elle les adorait. »
Quelques années après avoir peint ce tableau, et parce qu'elle avait gagné beaucoup d'argent avec son talent, elle put acheter un grand atelier à Paris et un château à côté de la forêt de Fontainebleau. Dans l'un et l'autre lieu, elle installa une véritable ménagerie. Elle vivait au milieu des chevaux, des moutons, des chèvres, des vaches, des chats, des chiens et des oiseaux. Et elle eut aussi des yaks, des gazelles, et même un lion et une lionne que lui avait offert un dompteur.
« Alors, ça veut dire qu'elle préférait les bêtes aux humains ?»«
Je l'ignore, mais c'est probable. » Un jour, elle déclara « L'espèce humaine ne vaut pas en général les animaux. » Et quand on examine la façon dont elle les peint, on voit qu'elle ne cherche pas à les rendre artificiellement plus proches de nous. Elle respecte l'intensité de l'expression propre à chaque bête, y compris chez un bœuf. Regarde-les ici. Ils s'étalent sur toute la surface, tandis que les bouviers qui les accompagnent dans la profondeur sont d'une taille plus modeste et traités d'une façon sommaire, par une touche uniforme dépourvue de modulation. Les bœufs du Charolais nivernais ont au contraire le pelage peint avec beaucoup de raffinement. Vois ses plissés et ses ombres, les nuances de couleur crème, beige et marron de la robe, la raideur, la frisure et l'usure du poil. Rosa Bonheur donne à ses bovins prestance et majesté. Il faut dire qu'elle passait un temps fou à les observer, non seulement dans les campagnes qu'elle traversait à cheval, mais également aux 6 messes du Louvre. Car elle est aussi bien l'héritière du monde rural dont elle est issue que de toute une tradition de peinture animalière.
Et là, dans le tableau, on sent que c'est fatigant pour ces pauvres animaux. Ça donne l'impression que ce travail est dur, très dur, qu'il se répète et qu'il va continuer longtemps.
Oui, et cette impression de besogne est particulièrement dramatisée par ce qu'on appelle les lignes de fuite. Regarde.
Ce sont ces lignes qui, en se croisant en un point, construisent la perspective et donnent une illusion de profondeur.
Les lignes des sillons, si on les prolongeait, viendraient s'entrecouper sur la gauche de la toile, à l'extérieur du cadre. De l'autre côté, sur la droite, elles pourraient se perpétuer en d'interminables longueurs. Ce cadrage si particulier de Rosa Bonheur renforce le sentiment d'acharnement à la tâche sur un parcours interminable qui paraît de surcroît légèrement ascensionnel. Mona, qui avait un temps associé ce faisceau de terre retournée à une rivière de chocolat, saisissait à présent sa dimension pathétique, celle du labeur des êtres pour rendre fertiles les champs et nourrir la société entière. Son grand-père tempéra néanmoins cette lecture élégiaque de l'œuvre de Rosa Bonheur, qui avait su trouver un parfait équilibre entre la rudesse de la vie des champs et une fraîcheur, une luminosité bucolique. La toile rappelait par exemple les descriptions de George Sand dans La Mare au diable, roman publié en 1846, 3 ans avant le succès du labourage nivernais au salon, et qui avait peut-être inspiré l'artiste. Mais Mona était surtout fascinée par un détail du tableau. « Thaddée, est-ce que tu te rappelles ce que tu m'avais dit sur la femme qui nous regardait dans La conversation dans un parc de Gainsborough ?»«
Oui, qu'elle était... » »«
Attends !» l'interrompit Mona.
« Je veux retrouver le mot par moi-même. Tu m'avais dit qu'elle était une admonitrice. »
Elle articula chaque syllabe avec gourmandise pour ne pas écorcher ce terme délicieusement sophistiqué.
« Tu as la mémoire d'un éléphant, Mona. »
Dans le tableau de Rosa Bonheur, c'est ce bœuf,
elle désigna celui en position centrale dans l'attelage le plus visible,
qui nous regarde avec son œil énorme.
Et il a donc un rôle d'admoniteur,
exactement.
On parle souvent du regard vide des bovins, comme s'ils n'avaient ni intelligence ni conscience. Pour tordre le cou à ce lieu commun, l'artiste peint le noir de la pupille qui se dilate spectaculairement sur le blanc des yeux. Il réclame notre attention, notre implication dans le tableau, notre empathie. C'est cela le sens de cette œuvre.
Thaddée, celui qui fera du mal aux animaux, je lui ferai la même chose. Et d'ailleurs, quand papa et maman me laisseront tranquille, je mangerai seulement des légumes.
Peut-être voudras-tu t'inscrire à la SPA, la Société protectrice des animaux. Au XIXe siècle, elle prospéra en Angleterre, en Hollande et en Bavière, puis s'implanta en Italie et en France en 1845. Et Rosa Bonheur fut l'une de ses premières adhérentes.
Mais Thaddée, est-ce que tu trouves ça bien de dire qu'on préfère les animaux aux humains ?
Je te le répète, Mona, les gens doivent avoir le droit de penser et de dire absolument tout ce qu'ils veulent. Je ne peux pas répondre autrement à ta question. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que pendant trop longtemps, les animaux ont été considérés avec mépris, comme des êtres mécaniques et inférieurs, soumis aux besoins des hommes sans recevoir le moindre égard, et bien souvent esclaves de leur cruauté. À partir du XVIIIe siècle, des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau en France ou Jeremy Bentham en Angleterre les qualifient d'êtres sensibles, ce qui signifie qu'ils peuvent prendre en compte leur souffrance, d'autant plus tragique qu'elle est muette. Et cela, c'est une grande avancée. Je crois que la peinture de Rosa Bonheur a le mérite de participer à ce progrès. En quittant le musée, Mona repérait tous les chiens qui gambadaient dans les rues de Paris et avait envie de les saluer comme des égaux. Henri s'en amusait. L'air espiègle, il fit remarquer à l'enfant que ses inclinations végétariennes ne l'avaient pas empêché de manger 2 sandwichs à la saucisse quelques semaines auparavant lors d'une visite au Louvre. Mais ce mercredi-là, elle avait plutôt envie d'une rivière de chocolat.